Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans les aventuriers du Pixel Perdu. Great quest, the Holy Grail, Dr. Jones. Oh, rats. Cette journée consacrée à l'amour et à la volupté, chères auditrices et chers auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle aventure érotico-ludique. Des courbes mirobolantes de Lara Croft aux tablettes de chocolat marmoréennes de Kratos en passant par les partouzes pixelisées des Sims, pour le plaisir de vos oreilles, nous vous emmenons sur le terrain glissant des fantasmes vidéo-ludiques.
Et on commence par un petit extrait.
Je suis sexy là quand même.
Ah oui, ça, c'est la plus belle là.
Je suis la plus belle là.
Ah oui.
C'est gentil de me faire des compliments. Eh, mais on peut aller se mettre autour du feu de camp, on aura plus bel air que rester debout.
Oui.
Oh, c'est trop cool. C'est tout mimi. Moi j'adore les cœurs.
Moi j'adore ça aussi.
Merci.
Mon cœur, dès lui de passer une chemise, il me fait de la peine avec son tatouage.
Je sais pas demander de regarder dans son nez, elle aime peut-être bien pour ses muscles.
Ah ouais, c'est vrai. Ah.
D'accord. C'est vrai qu'il est pas mal quand même.
On est bien ensemble.
Oui, oui, c'est vrai, on est bien ensemble.
Donc là, nous entendions un extrait d'un reportage sur le jeu vidéo Second Life, sur des joueurs de Second Life, qui est un simulateur de vie, finalement, où on crée un personnage et où on mène sa vie, on rencontre d'autres joueurs en ligne.
Et surtout un jeu dans lequel tous les fantasmes semblent pouvoir être réalisés, puisque peut-être avant de commencer, on pourrait revenir un petit peu sur la notion de fantasme.
Le fantasme, déjà, c'est un terme qui vient du grec, hein, le fantasma, qui est le fantôme, l'image, l'apparition, la projection. Voilà, cette idée vraiment d'image offerte à l'esprit par un objet, quelque chose qui nous apparaît comme ça, c'est ça qui a donné le fantôme et toutes les idées de spectre.
Et en histoire de l'art, finalement, la représentation, en tout cas le spectre de la chose, est souvent comprise au prisme justement du fantasme, puisque les œuvres d'art sont perçues comme des dispositifs libidinaux, pour reprendre l'expression de Lyotard un peu rapidement, dans ce sens que ça vient combler un manque du sujet, un désir d'un sujet qui ne trouverait pas dans la réalité ce qu'il voudrait, ou en tout cas qui se servirait de l'œuvre d'art comme médiation entre lui et la chose.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un délié de la chose, c'est-à-dire que l'art, par exemple, il va peindre, il va représenter, il va filmer, il va sculpter, pour tenter de se rapprocher de cette chose qui lui manque. C'est le fantasme. L'art est une forme de fantasme. Et c'est la fameuse affaire aussi de la bobine dont parle Freud dans son texte sur le Forda, cette idée que l'enfant, pour apprendre à se séparer de sa mère et pour faire l'expérience du désir, en fait, jette sa bobine et dit « elle est loin, elle est près, fort et da ». Et justement, va voilà, se représenter le désir, va se représenter le manque, et comment justement se représenter le manque, le faire apparaître pour la première fois.
Le faire apparaître à partir d'un objet qui vient s'insérer finalement dans ce creux que le désir a formé au préalable.
Voilà, c'est ça. Donc le fantasme, c'est cette chose-là qui va se créer, qui est creusée par le désir du sujet et qui va s'incarner dans un objet. Donc la bobine de l'enfant, une image ou alors, dans le cas qui nous intéresse, un personnage de jeu vidéo.
Oui, parce que si ça traverse toute l'histoire de l'art, on peut se demander ce que ça change, enfin ce que le jeu vidéo change. Alors a priori, il semblerait que le monde virtuel soit organisé autour de la libido du joueur.
Oui, c'est ça. C'est que le jeu, pour qu'un jeu marche, il faut aujourd'hui qu'un jeu soit quelque chose qui entretienne cette libido du joueur, entretienne son désir, son envie d'être présent, son envie de se représenter dans le jeu. Et donc, c'est son imagination et son désir qui vont être les forces agissantes de ce monde. Et qui vont. C'est grâce à ça que le joueur va pouvoir s'y déployer à loisir. C'est-à-dire que si le joueur ne peut pas trouver d'espace de représentation, des creux où il va pouvoir s'incarner, pour lui, le jeu ne va pas avoir d'intérêt. Et donc, il va falloir jouer sur ces questions-là de désir.
Et justement, dès lors que l'imagination et le désir sont des forces agissantes, on peut parler d'interactivité, qui devient une nouvelle dimension du fantasme et de l'éros, finalement.
Oui, c'est ça. C'est surtout dans le cas du jeu vidéo. C'est que dans le jeu vidéo, on rajoute encore plus une interactivité qui fait que on va... Comme dans les Sims, on peut prendre l'exemple des Sims, on va expérimenter derrière des portes closes. Enfin, voilà, on pensera à toute cette génération de... Toute notre génération, c'est vrai, qui a projeté dans cette réalité, qui est intrinsèquement malléable, toutes ces perversions, cette pauvre jeunesse perdue.
On les a fait brûler, on les a noyés dans la piscine.
On les a emmurés, et puis surtout, on a fait copuler des Sims à foison, quoi. C'est-à-dire que c'était la grande scène où les Sims se retrouvaient sous le lit.
Sous la couette,
oui, parce que sous le lit, ça va être compliqué.
Mais... Et finalement, c'est là que le jeu devient un petit peu une modélisation des fantasmes adolescents des années 2000-2010.
Ah oui, il y a un fantasme, et qui est permis justement par ce flou. Il y a vraiment un flou, quoi. C'est-à-dire que dans les Sims, quand voilà, il y a une
oui,
scène...
Oui, littéralement.
Oui, il y a vraiment des pixels qui apparaissent, comme quand ils vont se doucher. Enfin, le corps nu, la nudité est totalement prohibée, quoi, dans les Sims. Et ça crée ce fantasme-là, c'est-à-dire que tout le monde faisait copuler ces Sims pour cette raison, quoi.
Et puis bien sûr la fameuse cinématique quand les Sims se copulent.
Ah bah oui, ce cinématique, voilà, c'est vraiment pur espace d'observation pour le joueur où voilà, il va se représenter totalement là-dedans, quoi.
Et on se retrouve finalement dans une modélisation, une simulation d'une expérience dont tout le monde ludique en fait semble organiser en vue de ce moment d'expérimentation. Bah, ce matin sur France Culture, on écoutait France Culture.
Eh oui, ce matin, oui, il y avait Alexis Blanchet, donc chercheur qui s'intéresse justement au rapport entre cinéma et jeux vidéo, et Adèle Von Redt, qu'on ne présente plus évidemment, qui voilà parlait de jeux vidéo et cette question-là.
Il parlait du gore.
Voilà, qui parlait du gore. C'était une émission sur le gore et sur comment voilà il y avait cette histoire d'expérimentation dans GTA. Où il parlait justement de l'exemple où si on tire dans la jambe d'un personnage et qu'on regarde ce qui se passe, et ben la simulation va continuer à fournir en regard, va continuer à fournir en image et on va pouvoir continuer à fantasmer sur ce qui se passe en fait. Et il va y avoir un véritable torture
porn. Et puis la simulation va se couler un petit peu dans cette espèce de fantasme un peu sadique, enfin totalement sadique même, que la simulation fournit et on va se retrouver oui, dans une scène de torture porn que le monde ludique va fournir aux joueurs.
Oui, c'est ça. Et du coup, là, c'est là aussi que l'interactivité revient. C'est-à-dire que à travers cette interactivité du personnage qui tire dans la jambe ou de nous qui enlevons l'échelle quand un Sims est dans la piscine pour le regarder se noyer, il y a quand même une projection dans une expérience, mais aussi une projection dans un corps. C'est-à-dire qu'on est, voilà, ce corps-là qui prend la balle, enfin, qui tire la balle et qui regarde ce qui se passe, quoi.
Oui, c'est toute la notion de l'avatar. Parce que l'avatar, c'est finalement, bon, c'est un mot qui vient
du sanskrit,
mais qui est assez proche du mot de fantasme, finalement. Puisqu'il s'agit d'une projection, en fait. C'est toute cette histoire d'incarnation dans un corps autre. Et finalement, c'est là que le jeu vidéo se situe à la jonction entre le fantasme à la grecque, on va dire, du spectre, du fantôme, de quelque chose, d'une image qui danse devant nos yeux, mais que l'avatar, en même temps, propose au corps du joueur de venir lui-même dans cette espèce d'image qui s'agite. Et à ce propos, nous avons un petit extrait.
Un petit extrait fort parlant.
Be gone, Kratos. It's been far too long. Even though you are no longer the god of war, you can still share my bed.
Do you know how long it's been since a real man has come into my chambers?
Bon, alors là, ça se passe de commentaires. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez de God of War et du héros de God of War, Kratos.
Ouais, Kratos, oui, qui est dieu de la guerre, donc voilà, qui incarne cette masculinité incroyable, téton saillant, tout blanc, enfin ultra musclé.
Et puis qui se retrouve dans la chambre d'Aphrodite, voilà, qu'il n'a pas vu depuis manifestement un petit moment.
Ah oui, apparemment.
et c'est le summum du cliché, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on a la petite musique un petit peu orientalisante. Et puis, le gameplay.
Ah oui, le gameplay, c'est-à-dire qu'après ça, on a quand même une scène formidable qu'on a coupée pour vous, évidemment, interdit au moins de 16 ans, on appuie sur des touches, finalement, pour faire l'amour avec Aphrodite.
Et tout se passe comme si on était dans un espèce de faux hors-champ, c'est-à-dire que la caméra se détourne et pendant ce temps, le joueur doit s'activer sur sa manette pour... Pour faire ce qu'il a à faire avec Aphrodite. Et finalement, c'est un faux hors-champ, que ce soit dans les Sims ou dans God of War, qui nous oriente vers une espèce de tabou du jeu vidéo qui existerait et qui est un petit peu surprenant.
Tout à fait, c'est cette histoire, cette espèce de puritanisme exacerbé qui essaye de cacher finalement la représentation directe, alors que, comme en fait finalement, ce puritanisme vis-à-vis du jeu vidéo, il a existé aussi dans d'autres formes d'art avant, qu'on pense à tous les films d'horreur dans les années 80 ou ces choses comme là.
Et puis le code Hays qui interdisait le moindre bout de peau, etc. Et on a l'impression, on se dit, les autres arts sont déjà passés par là, pourquoi le jeu vidéo, d'un coup, on devrait censurer un certain nombre de choses dans le jeu vidéo
Mais il y a sans doute cette question-là qui était de l'interactivité, que tout le monde a dit, oh là là, mais maintenant ils tuent des vrais gens dans la vraie vie, de la vraie rue, dans GTA, oh là là, mais que se passe-t-il, notre jeunesse dépravée? Et puis, justement, ça va cacher des choses, ça va entasser des choses qui vont plus vraiment exister dans l'espace, et du coup, ces trucs cachés vont devenir des sources de fantasmes, justement. La censure va créer de plus en plus de fantasmes, et donc de légendes urbaines.
Ça, c'est le fameux code dans Lara Croft.
Voilà, donc le fameux code qui permet de voir Lara Croft toute nue. Ce code n'existe pas, mais on a cru pendant longtemps qu'il existait.
Ou alors, dans GTA encore, le Hot Coffee with Denise.
Oui, voilà, c'est ça, où je vois que Félix hoche la tête. C'est un connaisseur, je crois, de GTA. Et donc, c'est cette... où on peut avoir un rapport sexuel avec un personnage non nommé Denise. Et c'est des codes qui à l'époque se passaient un peu sous le manteau, des choses qu'on disait, regarde moi j'ai réussi à faire ça, alors que c'était totalement faux, mais il y avait ce
côté, en fait, on se croyait revenu à la grande époque des magazines de fesses qu'on a piqué où on pouvait.
Voilà, c'est ça.
Et on a d'ailleurs un petit extrait fort à propos.
Pas censure.
Steve, c'est si bon de te revoir. Je me sens tellement seule ici.
Je suis désolé. Tu veux savoir ce qui se passe dans le monde réel?
Non, je préfère oublier Harvest pour l'instant.
Stéphanie?
Je me sens si proche de toi, Steve.
Oh, on a dans la scène à couper!
Comme si nous étions seuls dans Harvest. Les deux
sont. On a loupé!
Tu comprends ce que je veux dire?
On a loupé la scène de l'œuf. Il va vraiment falloir patcher le jeu au plus vite.
J'ai besoin de vivre à nouveau. L'impression de te connaître. Tu es mon seul lien avec mon passé.
C'est cela, oui.
Mais peut-être que ce n'est pas des souvenirs. Il est possible que tout ce qui reste dans notre mémoire
soit
des sentiments profondément enfouis, des sentiments très forts.
Peut-être que le corps a sa propre mémoire.
Voyons si c'est vrai. J'ai envie de toi.
Oh là là! Oh là là, Squeezie, ouais, Squeezie! Non, c'est bon. Faisons l'amour. Alors, attendez. Parce que... Non. Alors, Parce que s'il se passe n'importe quoi, on est sur jeuxvideo.com.
Alors là, immense extrait devant l'éternel.
Là, c'est anthologie, Mister MV, donc streamer connu de France et de Navarre.
Et que si vous le connaissez pas, franchement.
Écoutez, allez taper son nom sur YouTube et passez une nuit formidable à l'écouter. Et qui justement joue sur jeuxvideo.com à Harvester, un jeu connu pour ses scènes graphiques. Et donc voilà, il dit on est sur JVC, quand on est sur jeuxvideo.com, quand même, il faut faire de la censure, il faut arriver à faire ça.
Il faut planquer les scènes, etc. Voilà. Enfin, une espèce d'odeur de soufre qui flotterait autour de ce genre de jeu, mais qui finalement devient limite comique. Finalement, est-ce que cette forme de censure, voire d'auto-censure des programmeurs, ou des joueurs en l'occurrence, dont fait l'objet le vidéo n'est pas un faux problème, en fait.
Oui, parce que finalement, il vaudrait peut-être mieux s'interroger sur la mise en scène de ces fantasmes-là et finalement sur ces mécanismes-là. Parce qu'on reproduit des mécanismes de domination, voilà, enfin, on se retrouve face à des choses propres au male gaze, hein, avec l'extrait
de
Kratos.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà... Bon, on a regardé pour les besoins de cette émission une compilation, hein, n'est-ce pas, des scènes de tous les God of War.
Tous les scènes de sexe dans
de
God of War.
Et dans Chains of Olympus.
On a le droit à cette scène formidable où Kratos s'approche de deux femmes lascivement étendues l'une sur l'autre sur une couche à côté de caisse en bois. Et voilà.
La caméra se détourne pudiquement.
Voilà, sur une bougie qui bouge donc à cause des, sous l'effet des caisses, qui bouge à côté d'eux.
Voilà, et la cire de la bougie commence à. Enfin, le bougeoir est en forme de femme et la cire de la bougie se répand sur le bougeoir en forme de femme. Voilà, on ne veut pas de dessin, mais c'est pourquoi on peut s'interroger sur l'existence après un male gaze cinématographique d'un male gameplay.
Oui, parce que si on en revient toujours à Kratos, hein, voilà, cette figure formidable, qui achève finalement de faire jouir Aphrodite ou ces deux femmes lascivement assises à côté de caisse, comme finalement c'est un combo au combat, c'est la même chose,
oui, c'est
comme une séquence de combo dans Street Fighter ou dans tout jeu d'action.
C'est juste un assemblage de touches et on en revient à des trucs vieux comme le monde, c'est-à-dire Don Juan qui se prend pour Alexandre le Grand, en fait.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire
à travers le gameplay, alors comme voilà, Don Juan représentait voilà ce fantasme-là, à travers le gameplay, on va représenter ce fantasme d'une masculinité virile, forte, qui fait jouir les femmes à n'en plus pouvoir, évidemment.
Et la physique du jeu, le mouvement des personnages, le mouvement de leurs
seins,
attributs.
Oui, hein, pensons à Soul Calibur 5, hein, notamment, où vous pouvez créer des personnages en fonction de leur taille des seins. Mais...
Et du coup, penser pour un regard concupiscent, une interactivité, finalement, qui confine au male gaze, mais qui, en plus, dans ses méthodes propres, est toujours pensée pour un regard masculin.
Oui, c'est ça. Et puis, après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que la programmation, elle autorise certaines choses, dans le sens où, voilà, c'est des choses qui orientent l'expérience de jeu. Et il y a une licence du virtuel qui est faussement libertaire, dans le sens où elle est orientée pour un plaisir plutôt masculin. C'est-à-dire qu'on fait croire que, voilà, il y a cette possibilité de faire exister des choses incroyables. Mais en fait, finalement, c'est des représentations, comme tu disais, qui sont vieilles comme le monde.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est une forme de licence, de liberté, mais qui va toujours dans le même sens. Enfin, c'est... Et c'est pour ça qu'en fait, on a pensé que c'était un petit peu comme dans la série Westworld, qui met en scène un parc d'attractions donc dans le futur où les PNJ sont des androïdes, mais en fait, qui ressemble beaucoup à un RPG qu'on peut connaître de nos jours. Et en fait, les femmes PNJ sont toujours pensées comme des objets passifs de plaisir, comme des personnages non-joueurs au sens littéral du terme, et qui finalement ne font que reproduire une espèce de dichotomie passivité-activité qui entretient ce joueur masculin dans une simulation de toute puissance.
Oui, c'est clair. Bah, surtout que voilà, c'est à chaque les arrivées, c'est genre le joueur masculin qui arrive dans la ville et qui arrive, qui est actif, qui est un voyageur qui revient,
héros,
voilà, qui est le héros et qui va justement copuler avec la femme.
Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'illusion, enfin la simulation, va plus loin que l'illusion dans la violence symbolique.
Oui, parce qu'il y a cette simulation-là aussi, elle passe, finalement, elle va aussi s'épuiser dans une forme d'écœurement, en fait, et de perte de sens vis-à-vis dans une relation orgiaque au fantasme, que leur champ, finalement, échoue à restituer.
Oui, ça, c'est-à-dire que ça s'épuise, d'ailleurs, finalement. Enfin, ce qui peut être intéressant de noter, c'est que dans Westworld, la révolution, la révolte des androïdes commence par le bordel.
Oui, bah oui, c'est le personnage de Maeve, donc une prostituée qui était à l'origine uniquement pensée pour les plaisirs des visiteurs de genre masculin qui veulent jouir et qui finalement va se découvrir un amour, qui va se découvrir une volonté de sortir de cet espace-là, d'emmener avec elle une autre femme, enfin vraiment quelque chose d'assez féministe, quoi.
Ces joies violentes ont des fins violentes et meurent dans leur triomphe, flammes et poudre, elles se consument en un baiser. Le plus doux miel devient fastidieux par sa suavité même et détruit l'appétit par le goût.
Oui, voilà, c'est donc cette citation de Roméo et Juliette qui est largement reprise dans la série Westworld et qui semble parfaitement adéquate finalement pour penser la relation entre fantasme et jeu vidéo et justement cette question du dégoût. Et donc une conclusion parfaite.
Une conclusion parfaite donc pour cette 16e aventure du Pixel Perdu. À bientôt pour un nouvel épisode.
Une conclusion parfaite et un timing parfait. Merci à tous les deux. Je passe la parole à Étienne pour Bonne Pioche.